Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Elles ont osé, proposé par Les Échos. Elles ont osé et cela a tout changé, pour elles et autour d'elles, grâce à leur impact. Chaque mois, dans ce podcast, notre invitée partage les moments clés de son chemin pour aller toujours plus loin, être à sa juste place, guidée par son envie de contribuer à un monde meilleur. Elle met également en lumière une femme inspirante dont le portrait sera réalisé par Yves Villaginès, journaliste aux Échos. Merci d'être avec nous. Je suis Marie-Éloi, présidente de Femmes des Territoires pour créer son entreprise, Bouge ta boîte, réseau business féminin, et Bouge ton groupe pour accélérer l'égalité professionnelle dans les entreprises et les administrations. Si comme moi, ces échanges vous donnent des ailes, je vous invite à vous abonner et à partager le podcast sur les réseaux pour inspirer le plus grand nombre. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Marie-Amélie Le Fur, une athlète handisport hors pair, en athlétisme, en 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres et en saut en longueur, avec à votre actif 9 médailles aux Jeux paralympiques, dont 3 d'or, et vous êtes aussi 4 fois championne du monde et depuis 6 ans, présidente du comité paralympique et sportif français pour les JO qui se dérouleront dans quelques mois à Paris. Bonjour Marie-Amélie.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous.
Alors vous avez grandi dans le Loir-et-Cher, à Naveil, c'est ça, près de Vendôme, et très tôt, dès l'âge de 6 ans, vous commencez par faire de l'athlétisme. Qu'est-ce qui vous a, ou plutôt qui vous a motivé?
Effectivement, la question du qui est bien posée, puisque c'est pas du tout une vocation pour moi à la base de faire du sport et surtout pas de l'athlétisme. Mais c'est ma sœur. Voilà, ma sœur, elle voulait s'engager dans ce sport-là. Elle voulait le tester.
La grande sœur. Compte.
Voilà. Elle est de 4 ans, mon aînée. Et comme c'était un peu mon rôle modèle à moi, j'ai décidé de lui faire plaisir et de la suivre dans cette aventure-là. Bon. Au début, c'était pas vraiment une grande passion pour moi, l'athlétisme, on va pas se le cacher. Et puis là, c'est mes parents qui vont prendre le relais, qui vont m'encourager à la persévérance, à continuer ce sport-là. Et puis, à un moment donné, il va y avoir un déclic. Et ce sport, en fait, il va vraiment prendre une place très importante dans ma vie.
C'est quoi le déclic ?
C'est un déclic de sensation et d'importance, en fait, de ce que m'apporte ce sport-là, qui vient en fait déjà du fait que je suis en réussite dans ce sport-là. Et je pense que ça a aidé.
Vous avez des capacités ?
Voilà, j'ai des capacités sur certaines disciplines de l'athlétisme, je vais ramener des médailles, des petites coupes. Et donc, c'est forcément très valorisant quand on est enfant, voilà, de pouvoir aussi recevoir ces récompenses. Et ça encourage à continuer. Après, il y a simplement le plaisir et le bonheur de courir. Et je ne sais pas si ça parlera aux auditeurs, mais cette sensation de liberté, de légèreté, moi, c'est ce que j'aime en fait dans la sensation de course. Vous avez la puissance de l'appui qui se pose au sol. Et puis derrière, il y a ce temps de suspension qui est juste, voilà, qui chez moi générait énormément de bonheur. Donc, je deviens amoureuse en fait de la course à pied. Et la troisième chose qui était pour moi absolument fondamentale, c'était le lien social. J'ai toujours fait du sport en club. J'ai toujours eu une admiration pour les personnes qui m'entraînaient, une admiration qui était saine, et notamment une entraîneur qui a été à nos côtés au moment de l'adolescence, qui est souvent un moment de décrochage quand on est une jeune fille. Et elle était là, elle était à l'écoute de notre groupe de copines, et finalement elle savait rentrer dans notre jeu pour que l'athlète ne soit pas une contrainte, ce soit vraiment un plaisir. On travaillait, on s'entraînait, on faisait des compétitions, mais elle savait voilà, être suffisamment dans l'écoute pour qu'on prenne énormément de plaisir à chaque séance d'entraînement.
Vous vous rappelez de votre premier podium sous la pluie ?
Alors, je vais me souvenir d'un podium, effectivement, un moment qui était très dur et qui reflète toute la difficulté de la saison hivernale. On était dans le parc d'un château et ça avait été un cross. Et c'était censé être un moment de victoire pour moi, en tout cas un moment très positif, puisque je gagne ce cross-là. Et pour autant, il fait tellement froid, j'ai les mains gelées. Et en fait, je suis en pleurs sur le podium et tellement en pleurs qu'en fait, mes parents vont me donner un chocolat chaud pour que je tienne quelque chose dans mes mains. Voilà, c'est finalement ça, le sport, c'est un mélange de bonheur. bonheur, parfois un petit peu de souffrance, mais cette souffrance, elle est toujours positive parce que, en fait, elle nous amène à nous challenger, à repousser nos limites et à connaître finalement comment fonctionne notre corps. En tout cas, moi, je l'ai toujours vu comme quelque chose d'assez positif et de toujours, toujours se challenger pour aller chercher des limites plus grandes.
Vous avez gardé la photo ou pas du tout?
Ouais, je l'ai encore cette photo-là. Et c'est vrai, quand je la regarde, je me dis, mais cette pauvre petite fille, elle est en larmes sur le podium. Et on doit se dire, mais en fait, si on regarde la photo sans la contextualiser, on doit se dire, en fait, elle n'était pas contente d'être là. Enfin, je pense qu'on pourrait faire un raccourci très rapide de se dire, ah, c'est une enfant qu'on a forcée à être là, qui n'aime pas ça. Et en fait, pas du tout. J'adorais ça. Mais c'est juste que, voilà, j'avais ce jour-là très, très froid. Et franchement, mes parents ont toujours fait tout pour m'accompagner, pour être à mon écoute, mais sans jamais me pousser. Et je me suis toujours sentie libre dans mon parcours, finalement, de leur dire des choses et de leur dire le jour où j'avais envie d'arrêter et je savais qu'ils le comprendraient. Et c'était vraiment une relation très saine parce qu'ils m'ont challengée, ils m'ont accompagnée quand je me suis fixé des objectifs. Ils n'ont jamais stigmatisé l'échec, que ce soit dans le sport ou dans le système scolaire d'ailleurs.
C'était pas grave ?
C'était pas grave, ça faisait partie de l'apprentissage. Par contre, ils me poussaient toujours à me poser les bonnes questions. Voilà. Donc j'ai essayé d'apprendre effectivement de cette éducation. Ça a été long parce qu'il y a des fois où vraiment j'ai toujours tout remis en cause après des échecs. Mais quand je regarde vraiment l'enfance qu'ils m'ont donnée, je me dis, mais en fait, dès le début, ils m'ont appris que l'échec faisait partie de la vie. Il fallait simplement l'accepter, se poser les bonnes questions pour la fois prochaine, faire mieux et ne pas refaire les mêmes erreurs.
C'est quoi les bonnes questions, par exemple?
Si on le transpose dans ce que moi je faisais, c'est-à-dire l'athlétisme et notamment cette saison qui a été une saison pour moi déterminante. On a une année en fait où moi je rentre, je suis minime première année, donc les catégories d'âge encore relativement jeunes. Et l'objectif que je me fixe, c'est de passer sous les 3 minutes au 1000 mètres. Voilà, c'est un objectif qui est ambitieux, c'est la barrière des 3 minutes, c'est quelque chose de très symbolique. Et pendant 3 ou 4 courses, en fait, je vais être en échec. À chaque fois, je ne vais pas atteindre l'objectif. Et derrière, en fait, mes parents m'invitaient à me réinterroger sur la stratégie que j'avais mise en place. Pourquoi je n'avais pas tenu les chronos? Est-ce que j'étais partie trop vite? Est-ce que je n'étais pas partie assez vite? À quoi j'avais pensé? Et en fait, au fil comme ça du temps, en se posant les bonnes questions sur qu'est-ce que j'avais fait et qu'est-ce que j'aurais dû faire ou qu'est-ce que je dois essayer de faire la prochaine fois, et ben finalement on a fini au bout de 5 courses par trouver la stratégie gagnante et enfin franchir cette barrière des 3 minutes.
Et votre grande sœur, elle a continué ou pas? Celle qui vous a entraîné dans toute cette aventure quand même?
Alors, elle a continué pendant de longues années. Après, elle s'est détournée de ce sport-là pour aller sur un sport collectif. Parce que ma sœur, ce qu'elle aime, c'est... effectivement, je pense que c'est le défi, c'est le dépassement de soi. Mais le lien social, il est aussi absolument essentiel pour elle. Et je ne voudrais pas parler à sa place, mais je pense qu'à un moment donné, en fait, elle ne s'est plus retrouvée dans ce sport-là, qui était peut-être trop orienté sur la compétition. Et elle a eu envie de retrouver, je pense, simplement le plaisir de pratique qu'elle a trouvé dans un sport collectif. Mais ce qui est très marrant, c'est que maintenant, voilà, on est reparti à faire des défis toutes les deux, parce qu'elle, elle a repris la course. Moi, j'ai arrêté le haut niveau, ce qui me donne beaucoup plus de légèreté. Donc, en ce moment, on se fixe des challenges tous les deux, et c'est super chouette parce que c'est un facteur motivationnel assez important. Moi, j'encourage vraiment les gens qui pensent qu'ils n'aiment pas le sport à essayer de le pratiquer avec des gens qu'ils aiment, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est aussi une source de motivation. Et c'est une athlète de haut niveau qui vous le dit, une athlète qui, pendant des années, s'est levée à 6h du matin pour s'entraîner, et qui maintenant n'est plus une athlète de haut niveau, donc connaît toute la difficulté de la motivation. Mais dès l'instant qu'on le fait avec quelqu'un, qu'on est attendu par quelqu'un, et ben ça peut être un très bel élément déclencheur.
Alors en parallèle, quand vous êtes toute jeune, vous vous engagez aussi pour devenir sapeur-pompier. C'est un vrai engagement, hein. Ça veut dire qu'il faut se lever tôt, c'est pareil, les week-ends sont pris aussi par cet engagement-là, c'est très contraignant. Qu'est-ce qui vous a attiré aussi jeune vers ce métier?
En fait, à l'âge de... Je dois avoir 10 ans et je prends conscience que c'est le métier que je veux faire. En fait, j'hésitais entre plusieurs métiers. Ma maman étant infirmière, le métier du soin était quelque chose d'important pour moi. Je pense que je suis quelqu'un qui suis comme ma maman, c'est-à-dire assez chargée en termes d'empathie. Et moi, j'ai besoin d'avoir un métier finalement où je vais être en lien avec les autres, pour ne pas dire utile dans la vie des autres. Et je pense que c'est ce qui guidait un peu ma réflexion. Et à l'époque, j'avais une hésitation entre deux métiers. métier, professeur de sport, de PS, ou rentrer chez les pompiers. Ma maman va avoir cette phrase un jour qui va me marquer, qui va totalement déterminer mon choix de carrière, de me dire « tu n'auras jamais la patience d'être une professeure de PS parce que tu ne comprendras jamais que les élèves n'aiment pas le sport ».
Et c'est sûr.
Et c'est dur d'entendre ça de la part de sa maman, mais en fait, elle avait raison. Je pense qu'elle a, elle a vraiment eu raison et c'est aussi pour ça que je ne suis pas devenue entraîneur, parce qu'on nous dit souvent « ah, tu as été athlète de haut niveau, pourquoi tu n'entraînes pas ?» Mais parce qu'en fait, je ne comprendrais pas qu'un autre athlète de haut niveau ne se donne pas la rigueur que moi, je m'étais donnée. Et je serais trop dure, voilà. Donc, elle a eu totalement raison. Donc, je me suis plutôt orientée effectivement vers ce métier de pompier par mon empathie naturelle, comme je le disais, parce que j'aimais l'adrénaline de ce métier, l'incertitude. Je pense que je suis quelqu'un qui aime être challengée par l'incertitude, par l'inconnu.
Ça vous fait pas peur ?
Non, comme tout le monde, ça m'inquiète, ça me questionne. J'adore être challengée comme ça. Parce qu'à un moment donné, c'est dans ces moments finalement de défi, d'incertitude, qu'on va révéler le meilleur de nous-mêmes, qu'on va se poser les bonnes questions, qu'on va se rehausser parce qu'on va être confronté à des nouvelles situations. Et je pense que c'est ce qui me plaisait. Et puis, il y avait le côté très sportif du métier, voilà, où pour moi, il fallait vraiment avoir une condition physique si on voulait être sapeur-pompier. Et j'avais envie, voilà, de faire mes preuves et de démontrer aussi que finalement, les femmes avaient leur place dans ce métier-là, quelle que soit la condition physique qui était demandée.
Et l'incertitude, c'est vrai aussi, dès qu'on entreprend quelque chose, hein, que ça soit le sport, mais aussi créer son entreprise, ou changer de poste quand on est dans une carrière, en fait, l'incertitude est toujours là. Et en fait, c'est vrai qu'il y a quelque chose de grisant, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut ressortir de tout ça, et ça nous oblige à être incroyablement créatif.
Moi, je partage effectivement cette importance de l'incertitude dans notre quotidien, même si effectivement, ça nous challenge, ça nous fait peur parce que l'inconnu fait peur. Et moi, mon accident m'a beaucoup aidée en fait dans cette philosophie. Je pense qu'elle était déjà présente, mais ça m'a un petit peu plus animée. Et c'est vraiment comme ça derrière qu'en fait, que j'ai guidé ma carrière sportive, c'est de se dire en fait, l'incertitude, la contrainte n'est pas ton ennemi. Si tu la vois comme un ennemi, tu
T'es
vas
mort.
Perdre du temps. Voilà, tu n'avanceras pas, tu stagneras et la concurrence te rattrapera. Si tu vois l'incertitude comme ton ami et comme un challenge à relever qui va être dur, qui va te mettre en difficulté sur un temps donné, et ben derrière, tu vas savoir te surélever et vraiment aller chercher des nouvelles capacités, compétences. Il n'y a que comme ça qu'on progresse. C'est en acceptant cette part de l'inconnu et ces parts de mise en difficulté à des moments donnés d'objectifs que l'on s'en fixe ou de projets que l'on lance.
C'est dur, hein, parce que le premier réflexe, c'est d'avoir peur, c'est de se dire « mon Dieu, mon Dieu ». Et en fait, il y a quand même une part en nous qui se dit « et si ça se passait différemment et je suis capable de relever ce défi, mais... » Et il faut lui donner toute cette place, en fait, et pas laisser la peur prendre tout.
Les limites de confort, elles sont agréables. Parce qu'on est dans le confort, parce qu'on est bien, parce qu'on est dans du connu, parce que globalement, on est capable d'anticiper. Mais c'est pas comme ça qu'on progresse. À un moment donné, il faut aller challenger ses limites de confort. Et c'est moi, c'est vraiment la relation que j'ai toujours eue avec mes entraîneurs. C'est toujours les choix qu'on a fait de façon plus ou moins consciente. Après les Jeux, c'est de créer en fait ce climat d'incertitude. Et plus on le crée tôt, plus on le choisit, plus aussi, et ça c'est absolument essentiel, on en comprend le sens. Parce que si on veut en fait mener aussi ces périodes d'incertitude, il faut comprendre pourquoi on le fait. Pas comment on les surmonte, mais tout d'abord pourquoi on le fait. Et bah derrière, en fait, le comment, il devient évident. Et puis, ça déroule plus ou moins. Il y a des fois, il va y avoir des accros, il va falloir les surmonter. Et puis, il y a des fois, en fait, c'est une voie royale de la compétence et de la connaissance qui s'ouvre à nous.
Ouais, le sens peut nous permettre de faire... absolument tout, et vous en êtes la preuve parce que vous avez parlé de votre accident. Et effectivement, ça se déroule le 31 mars 2004, vous avez 15 ans, Marie-Amélie, donc en pleine adolescence, avec tous vos rêves, sapeur-pompier, l'athlétisme, et vous êtes victime d'un grave accident de scooter. Vous vous retrouvez à l'hôpital, il y a plus de sang qui circule dans votre pied, de ce que j'ai compris, c'est ça ?
Exactement.
Et là, vous devez faire face à une décision, certainement une des décisions les plus importantes de votre vie, que vous proposent les médecins, c'est ça ?
Alors, en fait, j'ai pas vraiment eu de décision à prendre. Et je pense, je sais pas, voilà, si finalement ça aurait été aussi vite si j'avais eu, en fait, la décision à prendre. Mais c'est factuel, c'est médical, il y avait pas le choix. Les médecins devaient procéder à l'amputation de ma jambe parce que, voilà, un organe qui ne reçoit plus de sang est un organe qui meurt. Et donc là, il y a une mise en danger de la personne. Et en fait, pour les médecins, c'est le pire aveu d'échec de devoir amputer comme ça une jeune fille au moment de l'adolescence. Et pour moi, contrairement à ce que eux pensent, ça va être la libération. En fait, ça va être le tout de suite, finalement, la capacité à créer l'avenir. Et dans la question que vous avez posée, vous me disiez, j'avais 15 ans, j'étais pleine de rêves. Voilà, j'étais pleine de rêves, les pompiers. Et en fait, ce qui va m'aider et ce qui va être déterminant, c'est que très rapidement, en fait, je vais comprendre que oui, quelques jours avant l'accident, j'avais plein de rêves, mais que cet accident-là, cet handicap, ne m'empêchait pas de rêver, ne m'empêchait pas de continuer ma vie. Il fallait juste que j'accepte que ma vie, j'allais la mener différemment, qu'il y avait certaines choses, effectivement, que je faisais avant, que je ne pourrais plus faire, notamment être sapeur-pompier. Il y a des choses que je ferais différemment, mais vraiment, ce qui fait l'essence de nos vies, c'est-à-dire la présence de nos proches, l'amour de nos proches, la capacité à fonder une famille, à mener un projet sportif, à avoir un métier, tout ça, j'étais encore en capacité de le faire.
Et donc, en plus, pardon, vous l'aviez construit très tôt, puisque vous aviez, vous l'avez dit, votre famille athlétisme, votre famille sapeur-pompier et votre famille de sang. Donc vous avez vraiment des appuis forts pour continuer autrement.
Ça, c'est sûr. C'est dans tout, effectivement, moment un peu charnière de nos vies, la question de l'entourage, elle est primordiale. L'entourage est primordial, que ce soit l'entourage familial, mais ça peut être aussi les amis, la famille des pompiers. Enfin, voilà, c'est, pour moi, ça a vraiment été tout un écosystème très positif qui m'a entourée, qui m'a accompagnée, qui m'a pris la main. Et dès l'instant que j'ai formulé cette volonté de recourir, la chance que j'ai eue, c'est finalement que mes parents, ma sœur, ma famille, les pompiers, y croit. Parce que bien souvent, on
croit en vous.
Voilà, ils croient en moi, ils croient en ce destin. Et ils n'ont pas eu envie, finalement, de me ramener à la réalité, qui était celle de la réalité médicale, qui, elle, nous disait « Ah, mais non, il faut un an pour recourir, il faut 50 périodes de deuil. » Et en fait, les personnes qui m'entouraient ont accepté que je ne réponde pas à la norme. Et ça, ça m'a beaucoup aidée. Et derrière, on ne savait pas quand, on ne savait pas comment, mais on savait pourquoi, parce que j'en avais besoin et que c'était un moteur de vie.
Pour vous, c'était impossible autrement, c'est ça ? Tout de suite, peu après l'amputation, vous avez dit « je vais recourir ». C'était vraiment quelques jours, c'est ça ?
C'était, ouais, je crois, c'était le lendemain de l'amputation. Et ce qui est important, c'est de se dire que ce déclic, il n'est pas venu de nulle part. Ce déclic, il est lié à un jour dans ma vie qui est totalement anodin quand je le vis. C'est-à-dire qu'on rembobine, on revient un an en arrière. Ça devait être en juillet-août 2003, lors des championnats du monde d'athlétisme qui avaient lieu au Stade de France à Paris. Et moi, en fait, je vais être présente tous les après-midi de championnats du monde-là parce que j'ai gagné, grâce à mon niveau sportif, un stage où le matin, on s'entraîne, l'après-midi, on va aux championnats du monde. Et un après-midi, en fait, je vais être assise comme ça dans les tribunes et je vais vivre une course de démonstration handisport avec des hommes qui vont concourir et notamment des hommes qui sont porteurs d'une prothèse tibiale. Voilà. Donc moi, je suis là dans mes tribunes, je vis le moment. Après, dans les coursives, je croise les athlètes et j'ancre ce souvenir-là, mais sans finalement que ça me fasse quelque chose. Par contre, quand un an plus tard, les médecins commencent à me parler de l'amputation et que l'amputation a lieu, et bah, tout de suite, je sais que c'est possible. En fait, parce que ce moment en 2003, qui est un moment qui a duré 10 secondes, m'a ouvert le champ des possibles et derrière, ça m'a permis de tracer ma propre voie, ma propre route.
C'est tellement important. Les rôles modèles, ça peut nous faire faire des choses incroyables, d'avoir cette vision, d'avoir ce chemin qui est déjà tracé devant nous. Et ça, c'est valable dans tous les domaines. Et c'est pour ça que c'est tellement important qu'on ait des femmes comme vous qui inspirent, qui peuvent nous dire « mais oui, en fait, c'est possible », qui nous disent comme « oui, c'est possible », qu'on peut faire aussi différemment, autrement. Donc, merci pour ce témoignage, Marie-Amélie, parce qu'en plus, 4 mois après, vous vous mettez à recourir. 4 mois après l'amputation. Et c'est pas quelque chose d'évident, parce que même votre prothésiste, elle ne sait pas que ça existe, ou en tout cas, elle connaît pas forcément les prothèses de course. Donc, vous devez en chercher.
Effectivement. Alors, déjà, il faut se remettre dans le contexte. C'était il y a 20 ans. Je vais fêter le 20e anniversaire de mon handicap cette année. Et en fait, la démocratisation du sport handicap, des prothèses, n'était pas ce contexte qu'on connaît actuellement. Donc, effectivement, quand je dis très rapidement que je veux recourir et que je vais commencer à avoir mes prothèses de marche, je vais formuler, en fait, à ma prothésiste, parce que je me retrouve embarquée dans le tournage d'un film, qu'il me faut une prothèse de course. Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre dans ma vie et dans mon destin, c'est que j'ai eu ce jour singulier où j'ai connu un accident, voilà, qui a bouleversé ma vie. Et derrière, ma vie, elle a été un enchaînement de belles rencontres. J'ai toujours eu l'impression de me trouver au bon endroit, au bon moment. Et comme si finalement, devant moi, j'avais un tapis rouge et que je n'avais qu'à marcher pour rencontrer ces gens-là, dresser mon destin.
Est-ce que c'est lié à votre état d'esprit ? Est-ce que si vous aviez eu un autre état d'esprit, le tapis rouge n'aurait peut-être pas été là.
J'estime effectivement qu'il y a une part de chance, mais la chance, on la provoque, c'est une question de posture. Et en fait, si très rapidement, on avait décidé, et ça aurait été notre droit, d'avoir une posture de non-acceptation, de colère, finalement une volonté à ne plus rien faire parce qu'il y avait la situation de handicap, on n'aurait pas provoqué ces rencontres. Parce que comment ces rencontres, elles se sont provoquées? On est au centre de rééducation, en tout cas, je suis au centre de rééducation, je suis convoquée par le médecin. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Parce que j'étais pas la plus assidue. Je me prenais beaucoup dans le parc parce que j'adorais marcher. J'étais fière de pouvoir remarcher, mais les médecins n'étaient pas très contents. Donc, je me retrouve convoquée par le médecin. Et en fait, non, c'est qu'il voulait me parler en fait, du tournage d'un téléfilm français qui avait lieu et pour lequel il cherchait une actrice amputée. Voilà. Je collais en fait en termes d'âge. Le scénario était ni plus ni moins mon histoire, c'est-à-dire que c'était une jeune fille qui courait, qui a eu un accident et qui voulait recourir.
Incroyable.
Donc, bon, voilà. Donc, je sors du rendez-vous. Je prends mon téléphone, j'appelle ma maman. Elle me dit, mais c'est marrant, nous venons d'avoir la même proposition par la Fédération Handisport. Voilà. Donc, on se dit, bon, ni une ni deux, alignement des planètes, on va aller passer le casting. Donc, je prends le TGV avec mon papa, on monte à Paris, on arrive pour le casting du film. Ils me font jouer deux, trois scènes. Et pour être honnête, voilà, moi, je suis pas comédienne, donc ça va se révéler être une grande catastrophe. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est là avec mon papa, avec toute la fragilité du moment. Parce que là, on est 2 mois et demi, 3 mois après l'accident. Donc, on vient, en fait, de subir ce changement de vie. On avance à tâtons. On ne sait pas ce qu'est la réalité du handicap au quotidien. Et on se retrouve là face à une équipe de réalisation. Et en fait, on va particulièrement toucher notre binôme avec mon papa, la réalisatrice. Et donc, ils vont me proposer d'être la doublure de l'actrice principale. Donc, je suis la doublure jambe de l'actrice pour simplifier les plans sur la prothèse. Et en fait, voilà, quand on le raconte, c'est vrai que c'est un moment qui est très drôle, qui est très marrant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, ça va lever énormément de contraintes et notamment la contrainte financière du matériel.
Parce que ça coûte hyper cher une prothèse.
Très, très cher. Et derrière, en fait, ça va nous forcer, ça va nous donner une temporalité et ça va accélérer positivement la reprise de la course. Et donc, ça me permet d'avoir ce sésame pour aller voir ma prothésiste et lui dire, voilà, il me faut une prothèse de course parce que je vais jouer dans un téléfilm. Je vais aller voir le médecin en lui disant, mais là, il faut absolument que j'ai le certificat parce que je dois jouer dans le film cet été. Et en fait, ça a contraint des personnes, alors pas ma prothésiste, mais en tout cas d'autres personnes qui fonctionnaient avec la norme de se dire, il faut tant de temps. Alors, on leur a dit que moi, c'était un besoin, que c'était une nécessité parce que de toute façon, il y avait cette temporalité du film et ça a forcé le système. Et derrière, tout s'est bien passé et ça m'a permis, 4 mois jour pour jour, d'avoir ce test de la lame avec mon entraîneur qui est derrière et l'entraîneur qui va devenir mon entraîneur au quotidien et qui va m'amener à gagner mes 3 titres paralympiques.
Et qui était sapeur-pompier avec vous,
exactement.
C'est ça ?
Qui était mon entraîneur.
Qui vous a suivi après.
Voilà, c'était en fait mon instructeur chez les pompiers. Donc, moi, je le disais, j'ai toujours eu une pratique en club. Je m'entraînais aussi au sein des sapeurs-pompiers. Et j'ai fait le choix, en fait, de me tourner vers cet entraîneur qui s'appelle Cyril Niveau parce que je voyais en lui la capacité de relever le challenge. Parce que c'était quand même un challenge. Il fallait m'accepter dans ma nouvelle normalité. Je ne fonctionnais plus pareil. Je n'étais plus la même personne. Ça ne voulait pas dire que j'étais moins capable. Ça voulait dire que j'étais capable différemment. Et j'avais besoin d'avoir à mes côtés quelqu'un qui soit capable de l'entendre, quelqu'un qui soit capable de s'adapter, quelqu'un qui soit capable d'apprendre. Et Cyril, c'est cette personne-là. Parce que Cyril, il est comme moi. Il adore les challenges. Il adore être mis en difficulté parce que ça lui permet d'apprendre. Et donc, il a été là pour me faire recourir, il a été là pour me rééduquer aussi en piscine avec un autre instructeur qui s'appelle Emmanuel Janus. Et voilà, il venait me voir régulièrement à l'hôpital, ils m'ont vraiment en fait aidé par l'activité sportive à conscientiser ce nouveau corps. Et je pense que ça, j'en avais vraiment besoin. Et le fait de reprendre rapidement l'activité sportive m'a aussi finalement permis de m'accepter comme j'étais, de comprendre que mon corps, il fonctionnait différemment, mais c'était pas pour autant qu'il fonctionnait moins bien. C'était juste que voilà, il fallait que j'apprenne à le maîtriser dans sa nouvelle normalité pour pouvoir être heureuse et construire ma propre vie.
Petite parenthèse, Marie-Amélie, ça coûte combien une prothèse ?
Alors, ça va dépendre de la typologie de la prothèse, mais globalement, une lame de course totalement montée, on va être entre 7 500 et 10 000 euros, selon si on est sur une lame de footing, qui va permettre finalement d'aller courir dans les chemins, ou on est sur une lame de compétition. Après, on a les prothèses de la vie de tous les jours qui, pour la plupart, sont remboursées. Bon, après, il y a des spécificités sur les pieds. Par exemple, moi, je porte aujourd'hui une prothèse qui me permet de mettre des chaussures à talons. Celle-ci n'est mais pas remboursés. Donc ça, c'est des financements personnels, tout comme les prothèses sportives. Donc on espère effectivement pour des raisons d'équité, mais aussi de compensation finalement et d'accès aux droits du sport des personnes en situation de handicap, de voir ce matériel sportif prochainement, très prochainement, remboursé dans les prestations de compensation du handicap.
Et donc vous faites votre premier championnat, le championnat de France sapeurs-pompiers en 2005, donc un an, c'est ça après ?
Ah oui, effectivement, il va y avoir l'enchaînement de deux compétitions. Alors, je ne sais plus exactement dans quel ordre. Il va y avoir le premier championnat de France en salle, en e-sport, avec le 200 mètres. Et puis, cette compétition que vous citez, Marie, ce championnat de France pompiers. Championnat de France de cross, on y revient, qui va être pour moi la course la plus chargée d'émotions de toute ma vie, de toute ma carrière. Au-delà de l'émotion que j'ai pu ressentir sur les Jeux paralympiques, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tout juste un an derrière l'accident, qu'on est sur un terrain de cross, que c'est pas une évidence déjà de voir une amputée qui fait du cross, surtout aussi récemment après son accident, et que cette course, en fait, elle va se dérouler au milieu de la famille des pompiers. Famille qui a été très présente pour moi, qui a très largement contribué à m'aider au financement de mon matériel sportif de réhabilitation, qui a été d'un soutien moral et psychologique très fort. Et je ne vais pas gagner cette course-là, je vais faire deuxième. Mais la chaleur humaine lors du podium, du public, ces applaudissements, ces regards, le fait de se dire que c'était ensemble qu'on avait cheminé pendant un an, voilà, quand j'en parle, ça me laisse encore des sentiments très forts. Et ce qui est très marrant, c'est que depuis maintenant 5-6 ans, je parraine assez régulièrement le cross national, donc ce même événement qui a lieu tous les ans. Et beaucoup de gens me disent « on était là ». On était là près d'Orléans quand un an après l'accident, tu as été sur ce podium et on s'en souvient. Voilà. Donc ça n'a pas marqué que moi, ça a marqué la famille des pompiers. Et encore une fois, ça démontre la puissance du collectif pour se relever, pour surmonter les épreuves. Et bien souvent, on me dit « ah, t'es courageuse ». Mais ouais, mais en fait, toute seule, je ne serais rien. En fait, sans l'énergie externe dans laquelle je puise mon dynamisme, mon optimisme, vers laquelle je défoule aussi mon énervement du quotidien, parce que moi, j'estime qu'on résout aussi ces problèmes rien qu'en en parlant. Et d'avoir face à nous des gens simplement qui nous écoutent, pas forcément qui nous répondent, mais juste des gens qui nous écoutent, c'est la première résolution du problème.
Vous entraînez donc de plus en plus, 20 à 25 heures d'entraînement par semaine. 2 ans après l'accident, vous participez au championnat du monde. 3 ans après, aux Jeux paralympiques, ça doit être une sensation incroyable d'ailleurs d'arriver aux Jeux olympiques, non ? Commencer ?
Ouais, c'est absolument formidable effectivement de participer aux Jeux paralympiques, même si sur les premiers Jeux, je ne prends pas la mesure de ce que c'est d'être une athlète de haut niveau. En tout cas, voilà, j'arrive là, je débarque là, j'ai 18
ans. En touriste ?
J'ai 20 ans. Et ouais, presque en touriste, effectivement. Bon, je m'entraînais quand même 6 à 8 fois par semaine. On avait quand même un projet. Mais je n'avais pas pris la mesure de l'exigence qui m'était demandée si un jour je voulais aller chercher la médaille d'or. Et puis, je tombe dans cette magie des Jeux où c'est la démesure, c'est la grandeur, c'est les Jeux de Pékin. Donc, tout est en grand là-bas. Et puis, je suis là comme ça au milieu du village paralympique. Et c'est un moment à la fois très challengeant parce qu'on voit beaucoup, beaucoup de typologies de handicap très différentes. Et c'est un moment absolument extraordinaire aussi d'ouverture d'esprit. Parce que oui, on rencontre des gens qui sont passionnés comme nous par le sport, qui sont des athlètes de haut niveau, qui dans leur parcours de vie, voilà, ont subi des parcours de vie qui sont teintés par le handicap. Mais il y a de la volonté, il y a de l'engagement, il y a du bonheur qui finalement rayonne au sein de ce village-là. Et moi, je me retrouve animée de tout ça à l'âge de 20 ans. Et l'erreur que je vais faire, c'est de me faire totalement happer par cette magie des Jeux, par cette magie de la grandeur. Alors sur le papier, et je vous vois Marie regarder votre papier de mon palmarès sur les Jeux de Pékin, je vais rentrer avec 2 médailles d'argent. Donc sur le papier, tout le monde va me dire « Waouh, quelle belle réussite, c'est génial pour tes premiers Jeux ». Et pendant un an derrière les Jeux, et de plus en plus la parole se libère sur l'année post-Jeux pour les sportifs, qui est une année charnière, très dure, mentalement, moralement. Et là, en fait, je vais prendre conscience que je vis en fait un moment très difficile où en fait ce que les gens me renvoient sur ma performance de Pékin n'est pas ce que moi je ressens. Et donc, je vais très rapidement prendre conscience en fait que je suis déçue de ma performance. En fait, je suis pas déçue du résultat. Je suis déçue de l'engagement que j'ai mis pour aller chercher ces médailles-là. Et j'estime qu'en fait, je n'ai pas pris la pleine mesure de ce que c'était d'être une athlète de haut niveau et que j'aurais pu faire plus. J'aurais pu m'entraîner plus. J'aurais pu avoir une vie qui tourne un peu plus autour du sport. Et donc là, le pacte que je vais faire avec moi-même et dans lequel je vais embarquer mon coach, c'est de se dire que la prochaine fois, le critère d'échec ou de réussite, et je pense que les matérialiser de façon inconsciente comme ça, ce ne serait pas forcément le fait de gagner telle ou telle médaille, ce serait le fait de se dire, en regardant en arrière, je n'ai rien à regretter. Voilà. Parce que pour moi, c'est véritablement là qu'on met le curseur de l'échec, c'est de se dire, ok, est-ce que finalement j'ai tout mis en œuvre? Est-ce que je me suis bien préparée? Et à un moment donné, en tant que sportif, si vous répondez oui à ça, vous n'avez rien à regretter. C'est juste que le jour J, eh ben, il n'y a pas eu l'alignement des planètes, ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu, la concurrence elle était peut-être un peu plus prête que prévu. Voilà, ça sert à rien de regretter parce que de toute façon vous aviez actionné tous les leviers que vous pouviez et donc c'est juste accepter que le jour J on s'est peut-être fait battre par plus fort et c'est vraiment avec cet état d'esprit qu'on a préparé les Jeux de Londres en 2012.
Oui, donc là vous êtes posé les bonnes questions à nouveau. Vous enchaînez jusqu'en 2011 les médailles d'argent, vous le dites vous-même, je suis abonnée aux médailles d'argent. Et tout d'un coup, en 2011, vous gagnez la médaille d'or. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez changé en vous? Est-ce que vous avez changé quelque chose en vous pour parvenir à l'or? Après, vous allez avoir plein de médailles d'or.
Ouais, c'est vrai que les championnats du monde de Chris Church, ils brisent pour moi un peu, on va dire, cette malédiction de la médaille d'argent parce que ça y est, il y a enfin la médaille d'or. On a changé pas mal de choses hein, dans l'entraînement, dans l'organisation de ma vie. C'est-à-dire que à partir de l'année 2011, en fait, je deviens vraiment une athlète de haut niveau à part entière. Puis sur la fin de mon cursus scolaire, et vraiment, on met en place tous les aménagements. C'est-à-dire que moi, bah, je vais m'entraîner deux fois par jour. Donc, bah, parfois, je vais rater un peu les cours à l'école, donc je vais rattraper comme ça les cours sur mon temps libre et sur mon temps de repos, mais en tout cas le projet sportif devient la priorité de ma vie et ça va se ressentir très vite hein, dans les résultats. Je vais décider aussi de finalement de mettre de côté ma vie de femme, ma vie d'étudiante, ma vie de jeune femme pour vraiment voilà, avoir une hygiène de vie qui tourne autour du sport de haut niveau.
Donc vous ne sortez plus, c'est ça?
Je sors plus, on fait des choix effectivement dans les amis et malheureusement c'est aussi un moment où finalement on découvre qui sont nos vrais amis, parce que les vrais amis, ce sont ceux qui comprennent que bah, vous ne pouvez pas toujours être disponible, que vous ne pouvez pas sortir, parce qu'à un moment donné, sortir, c'est se coucher tard et donc risquer de se blesser. Et voilà, et donc je m'engage vraiment dans ce process-là. Et ce qui est marrant avec ces championnats du monde de Chris Church, c'est que ça va être à la fois une très très belle réussite dans ma carrière, puisque c'est la première fois où je gagne une médaille d'or, je bats le record d'Europe sur le 100 mètres, hein, mais c'est aussi le plus gros échec de ma carrière. Est celui qui va me faire le plus avancer. Parce que, en fait, ce que vous n'avez pas sur votre feuille, Marie, c'est qu'il y a eu une autre
avec
épreuve.
Toute la liste. Ah oui, oui.
Il y a eu une autre épreuve pendant ce championnat, et qui est le saut en longueur. Et en fait, j'arrive au saut en longueur. Et ce moment-là, pourquoi je vous le raconte? Parce que c'est un jour déclic. Et je sais que vous aimez les jours déclic. Et en fait, je me présente sur le concours de longueur. Je suis en forme. Je n'ai jamais été aussi en forme. Je suis ce qu'on appelle affûtée. Les derniers entraînements se sont très bien passés. Je suis détentrice du record du monde. La meilleure performance mondiale. Donc, il y a normalement un alignement des planètes pour que tout se passe bien. Et bien, tout ne va pas bien se passer à tel point que je ne vais même pas rentrer en finale du saut en longueur. Donc, je vais terminer 9e de ce concours-là alors que le titre me tendait les bras. Et ça a été un échec très, très dur parce qu'en fait, c'est pas physiquement que je n'allais pas bien, c'était mentalement parce que je me suis totalement laissée happée par la pression et j'ai été ce jour-là en totale incapacité en fait de démontrer mes apprentissages et ma capacité physique parce que le mental négatif a pris le dessus. Voilà. Et ça a été pour moi en fait un échec salvateur parce que derrière, pendant des années en fait, on va essayer de corriger ça et de trouver une méthode pour faire en sorte finalement de mieux gérer la pression, notamment pour le saut en longueur.
Alors c'est peut-être pas sur ma feuille, mais je savais que ça avait existé et que suite à ça, vous avez décidé de prendre un préparateur mental. C'est ça en plus.
Effectivement. Effectivement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vont se passer derrière les Jeux de Londres. Donc, on a 2011, la belle réussite, 2012.
Donc, médaille d'or, hein, la belle
réussite. Médaille d'or, voilà, le
devant
titre,
80 000 personnes à Londres.
Ouais, c'était formidable. Enfin, vraiment, pour moi, c'est des souvenirs absolument extraordinaires. Ces Jeux de Londres, ça a été un moment absolument magique. Vous avez pendant 10 jours de compétition, 80 000 personnes tous les jours dans le stade. Et on peut dire ce qu'on veut, les Anglais aiment quand vous avez des Anglais, ils crient très très fort quand il y a des Anglais en compétition, mais ils aiment le sport de haut niveau. Et en fait, les Anglais, ce qu'ils nous ont offert comme magie, c'est de comprendre que les Jeux paralympiques, c'était du sport de haut niveau. Donc vous aviez en fait une ferveur des spectateurs qui est absolument phénoménale. Et quand vous entriez comme ça dans le stade, vous entendiez la clameur du stade qui vous encourageait, qui vous portait. Et quand vous aviez la chance, et moi ça a été voilà, la chance que j'ai eue de gagner une épreuve, derrière vous faites le tour d'honneur avec votre drapeau et vous avez tout le stade qui se lève pour saluer votre performance. Donc pour moi, c'est un moment absolument
magique.
C'est
ce qui s'est passé pour vous, quoi.
Voilà, moi, c'est ce qui s'est passé à Londres. C'est ce que j'espère, c'est qu'on retrouvera voilà, cette ferveur des tribunes pour porter les athlètes paralympiques et notamment les athlètes français cet été pour les Jeux de Paris 2024. Mais voilà, pourquoi je vous raconte ça ? Parce que derrière, en fait, le fait d'avoir un tel moment fort en émotion, ça donne envie de continuer. Et donc, nous, on va faire le choix de repartir pour les Jeux de Rio en 2016. Mais très rapidement, on va prendre conscience qu'il faut qu'on change de projet sportif, il faut qu'on change de discipline si on veut avoir cette possibilité de revivre la ferveur du titre paralympique. Et on se rend compte très rapidement que Ubegard, en fait, a un système de catégories, ce qu'on appelle les classifications, où moi, je concours contre les doubles amputés. Je ne vais pas avoir les mêmes facteurs de progression que les autres athlètes. Et aussi par mes compétences et qualités de base, le 100 mètres n'est pas la discipline sur laquelle on doit continuer à s'engager si je veux être médaillé d'or. Il faut plutôt partir sur la discipline du saut en longueur, qui est une discipline que je fais depuis maintenant 6 ans, mais pour laquelle chaque année, et notamment ça a été aussi le cas à Londres, je n'arrive pas le jour de la grande compétition à exprimer mon niveau de compétence parce que je me laisse totalement manger par la pression. Donc dès l'instant en fait que le saut en longueur devient l'objectif principal pour les Jeux de Rio, il faut agir et il faut comprendre comment on peut trouver des pistes de résolution à cette gestion de la pression. Et là en fait, la fédération va me demander d'aller voir un préparateur mental. Chose pour laquelle je ne suis pas du tout convaincue au début parce que moi, je m'appelle Mariam Hilleux-Lefure, que je suis championne paralympique du 100 mètres et que la pression, je la gère très bien. Voilà. Donc j'étais totalement, mais je vivais avec des œillères, c'était terrible. En fait, je vais y aller pour leur faire plaisir, pour dire bon, une fois que je vais y être allée, c'est bon, je vais faire ma consulte. Et puis après, ils me laisseront tranquille avec ça. Et en fait, dès le premier rendez-vous avec mon préparateur mental qui s'appelle Mathieu Benoît, ça va être une révolution. C'est-à-dire que je vais aimer ses méthodes, je vais aimer la façon dont il me challenge, je vais aimer l'image qu'il me renvoie de moi, c'est-à-dire que je suis une athlète qui réussit, mais je suis une athlète qui est aussi pleine d'ambiguïté et d'imperfection. Et c'est vrai, j'ai mon caractère, c'est ma vie, c'est ce que je suis, mais il va jamais être dans la stigmatisation, il va toujours être dans la proposition de pistes de résolution très positives qu'il va co-construire avec la sportive ou le sportif qu'il a face à lui. C'est-à-dire que quand vous allez le voir, il n'arrive pas avec une méthode toute faite. C'est beaucoup basé sur les échange, sur le dialogue, il interagit avec vous, il regarde ce que vous lui donnez et il fait avec ce que vous avez envie de lui donner. Voilà. Donc il n'y a pas de solutions qui sont toutes faites, préparées, il va vraiment interagir avec l'athlète et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait il n'est pas rentré par l'échec pour trouver les pistes de résolution, il est rentré par la réussite. Et moi ça m'a aussi beaucoup fait cheminer sur le fait que bien souvent dans nos modèles de fonctionnement, que ce soit dans le sport, dans l'entreprise, partout, on va souvent interroger nos échecs, essayer de comprendre pourquoi on a échoué, pourquoi ça n'a pas été, mais on ne prend pas le temps de se poser pour célébrer et questionner nos réussites. Et en fait, lui, il va m'apprendre à faire ça, c'est-à-dire d'essayer de comprendre le chemin que j'ai parcouru pour arriver à mes titres paralympiques, pour arriver à mes records du monde, de voir comment je pouvais me servir de ces schémas-là dans les disciplines dans lesquelles je suis en difficulté. Donc, c'est vraiment capitaliser sur mes points forts pour aller régler mes points faibles et de voir aussi comment dans ces lignes de force, je peux aller encore plus loin. Je peux aller encore me challenger et finalement me tirer encore plus vers le haut. Et puis après, bien évidemment, on a interrogé les échecs, les difficultés, les points de blocage, mais vraiment capitaliser sur la réussite.
Alors justement, j'ai une question là-dessus de la communauté. C'est Lauriane aujourd'hui qui va poser la question. Je vous propose de l'écouter, Marie-Amélie Lefur.
Bonjour Marie-Amélie. Ma question est la suivante. Quels sont tes rituels d'avant-compétition pour gérer ton stress et être focus sur ta course ?
J'aime beaucoup cette question parce que cette routine, elle est venue avec le temps. Elle n'a pas été intuitive pour moi. C'est quelque chose que j'ai appris à faire, gérer la pression. Et en fait, la pression, quand on est sportif de haut niveau, elle va s'appliquer à différents moments. C'est-à-dire qu'il y a comment on gère la pression du quotidien. Voilà, comment on gère la pression médiatique, la pression indirecte des sponsors, la pression indirecte de la famille dans cet objectif de réussite. Et là, moi, ce qui m'a aidé à gérer la pression du quotidien et tous les tenir sur les 4 ans, c'est la question du sens. Toujours revenir au sens, au pourquoi. Voilà. Pourquoi je m'inflige cette charge d'entraînement absolument horrible ? Pourquoi j'ai pas le droit de sortir les week-ends ? Mais parce que la ferveur paralympique, ça m'anime. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que il faut se poser la question du pourquoi régulièrement parce que on est un sujet qui évolue. C'est-à-dire que moi, quand je me suis posé la question du pourquoi, à 20 ans, 25 ans, 30 ans, 32 ans, ma réponse, elle n'était pas la même. Et c'est très important, en fait, de faire aussi évoluer nos modes de fonctionnement, nos modes de préparation en fonction de ce qu'on est au temps T. Voilà. Donc, la question du pourquoi sur la gestion de la pression quotidienne, c'est absolument essentiel. Après, le jour J.
Je crois que vous êtes bourré de TOC. C'est vrai? Tic et toc.
Ouais. En fait, il va y avoir les routines de concentration, mais il y a deux choses. Il y a effectivement ces routines de concentration qui vont faire que vous êtes dans ce qu'on appelle des ancrages positifs. Voilà, c'est ce qui vous rassure et vous sentez que là, vous êtes en train de formater votre corps et parce que vous remettez la mèche de cheveux à droite, puis celle à gauche, puis vous bougez vos petits doigts, puis vous ancrez le pied dans le sol. Derrière, la course d'élan, elle va bien se passer. Donc moi, c'était ça ma routine.
Donc vous faites
juste
quoi
avant
dans l'ordre ?
Le saut. Donc je remets mes cheveux derrière les oreilles. Je mets les mains le long de mes cuisses. Je bouge mes doigts. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, je dois prendre le vent. Enfin, voilà, je papillonne avec mes doigts. Et après, je vais enfoncer mon pied droit, mon pied valide, dans le sol pour vraiment cranter l'appui, faire un sursaut et partir. Et en fait, ce qui est absolument terrible, c'est que s'il y a le moindre grain de sable qui se met dans cette routine de 3 gestes, il faut que je recommence. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si le dernier geste qui est l'ancrage du pied ne se passe pas bien, on se remet en place, on remet les cheveux alors qu'ils n'ont absolument pas bougé, on rebouge les doigts, voilà. Mais parce que derrière, en fait, ça permettait que la course d'élan, elle soit totalement automatisée et que ce soit un geste naturel. Et en fait, le fait d'être comme ça dans cet automatisme et pas dans cette volonté de surcontrôle fait qu'on laisse aussi libre arbitre à son corps de s'exprimer. Et la deuxième chose que moi, j'ai compris avec le temps et mon préparateur mental m'a beaucoup aidé, c'est que le jour J, on arrête de penser au résultat, on arrête de penser à l'objectif. Oui, pendant 4 ans, l'objectif de résultat va être un facteur motivationnel. C'est ce qui va faire que chaque jour, vous arrivez à vous lever parce qu'il y a cette quête de résultat qui entretient votre motivation. Le jour J, on arrête de penser à la médaille d'or parce que c'est source de pression. Donc moi, ce que je pensais, c'était simplement à vivre le moment présent et à le vivre avec les personnes qui m'entourent, avec ma famille, avec mes proches, avec mon mari, avec mes parents, avec ma sœur, avec mon coach, avec le public. Voilà. Et c'était de vivre un moment de plaisir. Et c'est ce qui m'a en fait profondément déstabilisée à Tokyo, puisque j'étais seule dans le stade. Et qu'en fait, cette routine du plaisir, je n'ai pas pu la mettre en place. Et ça ne m'a pas permis en fait de m'exprimer à hauteur de mon potentiel.
Alors ça, c'était en 2020. J'ai plein de questions encore à vous poser, Marie-Amélie. Et je vois le temps qui file. Avec tous les résultats que vous obtenez, vous êtes de plus en plus médiatisée. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous devenez un rôle modèle aussi pour tous ces jeunes, tous ces enfants qui peuvent être en situation de handicap? Je crois que la première fois que vous en rencontrez une qui vit un peu la même chose que vous, vous sentez à quel point vous pouvez être un déclencheur et changer aussi finalement leur état d'esprit.
Alors, j'ai beaucoup de mal avec la terminologie de rôle modèle. En fait, j'aime mieux personnalité inspirante parce qu'en fait, rôle modèle, ça fait un peu la volonté du copier-coller. Et moi, ce que j'ai envie de transmettre en tant que message, c'est qu'on a tous nos propres parcours de vie. Moi, j'ai tracé ma route qui est pleine de réussites, qui est pleine d'échecs aussi, et je suis heureuse. Et ce qu'il est important, en fait, que les auditeurs captent, c'est pas ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait, c'est quelles questions je me suis posée, en fait. C'est ça qui est essentiel, c'est de comprendre en fait à quel moment on se pose quelles questions pour que les auditeurs derrière se posent eux-mêmes leurs propres questions sur leur propre parcours de vie.
Pour les mécanismes.
Voilà, c'est vraiment la question des mécanismes pour que derrière ils trouvent leur propre réponse, parce que la réponse que moi j'ai trouvée pour avancer ne sera pas forcément adaptée à leur propre projet de vie. Donc c'est pour ça que juste la terminologie de rôle modèle, elle me dérange, parce que voilà, on peut pas faire du copier-coller. Par contre,
c'est juste,
se poser
c'est
les bonnes questions au bon moment, développer les mécanismes de résolution, oui, mais la réponse, elle sera pas la même selon la personnalité que l'on est.
Et donc vous rencontrez une jeune fille qui est en situation de handicap, et comment ça se passe cette rencontre?
Ouais, c'est une rencontre qui m'a beaucoup beaucoup touchée, parce que il y a les titres paralympiques, je commence à être médiatisée avec mes parents, parce que aussi ça nous a beaucoup aidé quand nous on a eu la situation de handicap. On va créer un petit site internet, parce qu'en fait moi quand j'ai eu mon accident, et ben en fait on s'est beaucoup tourné aussi sur ce qu'on pouvait trouver sur internet, sur des blogs, sur des sites qui nous ont ouvert le champ des possibles. Et je me suis dit, bah si moi ces sites ils m'ont aidé, et ben à mon tour de passer la main et de parler de mon parcours pour aussi permettre à d'autres personnes d'avoir le déclic. Et en fait, au travers de ce site internet, on va être contacté par une famille, les parents d'une jeune fille qui vient d'être victime d'un accident de quad et qui vient d'être amputée. Et donc, mes parents vont converser avec ses parents pour les aider à cheminer, comprendre un peu les questions qui se posaient. Et moi, je vais rencontrer cette jeune fille et je vais la rencontrer dans son centre de rééducation. Et ce qui est très marrant, je me souviendrai toujours, voilà, j'arrive, on est sous un milieu un peu boisé. Elle m'attend, elle est assise sur un banc, et puis je m'assois à côté d'elle, on se dit bonjour, et très rapidement elle me dit, bah tu vois, rien que de te voir arriver, tu as déjà répondu à certaines de mes questions. Je dis, ah bon? Et ben notamment à laquelle? Et ben en fait, je me posais la question de savoir si un jour je pourrais me remettre en jupe et mettre des chaussures en talons. Et en fait, le fait est que ce jour-là, effectivement, je m'étais habillée en jupe, j'avais mis des chaussures à talons, et en fait, rien que d'arriver comme ça, finalement, de vivre ma féminité, ça a ouvert le champ des possibles à cette jeune fille. Et après coup, en fait, quand j'ai discuté avec cette jeune fille, quand je vois le parcours de rééducation qu'elle avait déjà entamé, je me dis qu'en fait, elle n'avait même pas besoin que je vienne la voir, parce qu'elle était déjà dans un état d'esprit très positif, elle était très dynamique, elle était très volontaire. Mais je pense effectivement, voilà, que de m'avoir rencontrée, ça lui a ouvert peut-être le champ des possibles sur d'autres choses, et notamment sur sa possibilité de continuer à exprimer sa féminité, quand bien même elle était en situation de handicap.
Et depuis, vous êtes vraiment engagée pour transmettre, inspirer, comme vous l'avez dit, que ça soit dans les écoles, dans les clubs sportifs, pour qu'ils soient plus inclusifs aussi, parce qu'il y en a très peu qui peuvent accepter aujourd'hui des personnes en situation de handicap, avec aussi l'association Entraide pour une lame, c'est ça?
Oui, pour permettre Entraide, une lame pour courir, exactement.
Une lame pour courir, pour permettre aux jeunes de pouvoir courir aussi, bah, comme vous, avec des prothèses, on l'a dit tout à l'heure, qui coûtent très cher. Donc vous êtes engagée au quotidien sur ces actions-là, et puis un jour, vous vivez une deuxième épreuve qui est aussi très douloureuse, c'est que vous avez ce rêve d'être maman, et à 8 mois et demi de grossesse, vous perdez votre enfant d'une pré-éclampsie, et à nouveau, le sport est votre bouée.
Effectivement, ça va être un moment très très dur de notre vie, hein, de perdre cet enfant aussi proche de sa naissance, de façon un peu au début incompréhensible et inexpliquée. On va comprendre avec le temps ce qui s'est passé, et ça a été pour moi effectivement un élément déclencheur absolument fondamental de la place du sport dans ma vie. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que donc moi je vais subir une opération en urgence. Les semaines qui suivent derrière sont très difficiles, parce que ma vie n'a plus de sens. Je sais plus vers où j'avance. J'ai finalement plus de ligne guide, parce que toutes les certitudes que je t'ai mises sont mises à mal par la perte de cet enfant. Et là, le sport va encore une fois être un élément salvateur, parce que je vais voir en fait les championnats d'Europe qui arrivent dans quelques mois. Je crois que le moment où j'en prends conscience, on doit être à 4 mois et demi de l'échéance. Et je me dis, je vais préparer cet événement-là, parce que j'en ai besoin, parce que je ne suis pas capable d'affronter la réalité de ce que je vis. Et ce moment-là va me permettre, sur un temps donné où je n'avais pas le droit de repenser à avoir un enfant, de laisser le temps filer et de me concentrer en fait sur autre chose, et de décentrer mon attention non plus sur le côté familial, mais sur le côté sportif. Et donc, je vais valider ce projet avec mon équipe de coach. On va valider aussi avec un médecin qui va nous donner un petit peu la ligne guide pour pouvoir repartir très rapidement derrière l'opération, et ça va m'aider, parce qu'en fait pendant un temps donné je vais me concentrer sur cet objectif, et ne plus effectivement faire du centre de ma vie la perte de cet enfant, mais ça va me revenir en fait comme un effet boomerang après ce championnat d'Europe, parce que donc je vis le championnat d'Europe, je suis jamais arrivée aussi mal préparée, aussi peu confiante, aussi peu affûtée à un championnat, donc je suis vraiment et la concurrence le sait que j'arrive affaiblie, donc elles ont l'ascendant psychologique et le concours de longueur va se bien se passer pour moi. En fait, il va vraiment bien se passer.
Même très bien, je crois.
Puisque sur le deuxième saut, je vais prendre en fait la tête du concours. Et en fait, quand je m'élance pour mon dernier saut, je sais que je suis championne d'Europe. Donc déjà, j'ai réalisé quelque chose d'absolument phénoménal. C'est-à-dire que je reviens très rapidement après une blessure physique, après une blessure psychologique très importante et qu'on a démontré voilà, que c'était possible. Et là, le coach va me dire, voilà, tu te concentres sur deux choses. Et il va en fait me mettre dans une prise de risque où c'est le dernier saut. On sait qu'on est championne d'Europe.
Vous
ça
dites
se dit
on,
pas
c'est
comme
l'équipe,
ça.
Oui.
Mais c'est on, voilà, parce qu'il y a toute une équipe familiale et de coach derrière moi ce jour-là. Et donc, il me met en situation de prise de risque parce qu'il me connaît parfaitement, il sait comment je fonctionne. Et moi, j'aurais pas fait le choix qu'il me fait faire sur mes marques. Et je m'élance et il me dit, voilà, là, tu penses qu'à ça. Tu penses à tenir tes pieds pour la réception. Et là, je vais sortir le saut parfait, en tout cas le saut parfait du moment, et je vais passer la barrière mythique des 6 mètres.
Ouais, vous voilà. Détenez le record du monde.
Donc voilà, sur mon dernier saut, je bats le record du monde, je deviens la première femme amputée tibiale à passer la barrière des 6 mètres. Et donc, c'est un moment d'euphorie intense, les tribunes sont déchaînées, les adversaires voilà, reconnaissent que voilà, je viens absolument de marquer l'histoire de notre sport. Donc c'est un moment voilà, sportif très intense. Et pour autant, moi, je reçois la joie de tout le monde. Je la vis, mais dans une mesure qui n'est pas celle que... Voilà, que
vous n'y êtes pas, quoi.
Je n'y suis pas totalement. Et en fait, je vais me retrouver à un moment à m'isoler derrière le clan France.
Derrière la tente.
Il y a voilà, toute une liesse, parce que c'est vraiment la plus grande réussite de l'équipe de France de para-athlétisme. Donc, tout le monde est en euphorie totale. Et moi, en fait, je me retrouve derrière la tente. Je viens de battre le record du monde. Je viens d'être championne d'Europe. Et je me mets à pleurer. Parce qu'en fait, ce jour-là, je prends conscience que... J'aurais beau battre tous les records du monde, j'aurais beau gagner tous les titres, que la sportive a besoin de devenir mère. Et que c'est ça, en fait, le but de sa vie de demain. Donc là, je vais dire, OK, on est en 2018, il y a les Jeux en 2020. Et ben en fait, on va remettre le projet sportif entre parenthèses parce que, de toute façon, je ne serai plus capable de savourer le moindre titre sportif si je n'ai pas un enfant. Voilà.
Et vous avez réussi.
Et on a réussi, puisque un an plus tard, va naître effectivement une petite Anna qui a fait notre bonheur, voilà, de notre bonheur de parents, qui a fait le bonheur de l'athlète. Et encore une fois, quand bien même accueillir un enfant, et je pense que les auditeurs qui sont parents le savent, c'est de la complexité, c'est de la charge mentale, c'est de la fatigue. Moi, ça me permettait d'être équilibrée entre la femme que je suis, qui était mariée depuis quelques années, qui avait un projet d'enfant, et l'athlète que j'avais envie d'être. Voilà. Et ça, en fait, ça a réconcilié mes deux vies, ça a réconcilié mes projets, et ça m'a permis en fait, de me libérer totalement dans ma volonté de performance.
Et c'est ajouter une troisième vie à tout ça, c'est parce qu'un jour, on vous appelle, un coup de fil, pour vous proposer de prendre la présidence du comité paralympique en vue des JO là, qui arrivent dans quelques mois à Paris. Comment vous réagissez ? Est-ce que vous y attendiez déjà ?
Alors moi, je ne m'attendais pas du tout. Il faut savoir, ce coup de fil en fait, a eu une double tonalité. Donc, je suis appelée par Emmanuelle Hassmann, qui est pour moi voilà, une femme absolument extraordinaire. Emmanuelle, en fait, je la côtoie depuis maintenant pas mal d'années puisqu'elle est présidente du comité paralympique. Et le comité paralympique, c'est l'instance qui est en responsabilité lorsque nous partons aux Jeux paralympiques. Donc, j'ai souvent des contacts avec Emmanuelle sur le temps des Jeux. Et surtout, en fait, j'ai des contacts réguliers avec Emmanuelle parce que je suis moi-même engagée dans le projet de candidature et d'organisation des Jeux de Paris 2024. Et je vais être une athlète qui va être identifiée pour porter la voix du mouvement paralympique dans cette instance. Donc, j'y côtoie Emmanuelle en tant que présidente et je vois à quel point... Emmanuelle, elle a une force de caractère, elle a une conviction, elle a une vision du mouvement paralympique et qu'elle est toujours là, derrière la table, à faire en sorte que tout le monde incarne les Jeux Olympiques, mais aussi les Jeux Paralympiques. Et je vais avoir effectivement, fin de l'été 2018, cet appel où elle m'annonce qu'elle va quitter la présidence du comité paralympique. Et pour moi, c'est un drame parce qu'on ne peut pas perdre Emmanuelle. Et derrière, elle va me faire une proposition totalement folle de dire qu'elle pense que je suis le profil effectivement effectivement pour prendre sa succession et qu'il serait bien que je me présente à sa succession en tant que présidente du comité paralympique.
Et elle est très très forte, hein, parce que vous ne voulez pas au début.
Exactement.
Donc elle passe par tous les canaux possibles pour vous convaincre. Vous mettez des mois à dire oui.
Ouais, parce que effectivement, ça va être beaucoup de questions sur ma capacité déjà organisationnelle à endosser ce rôle, parce que je sais que je veux devenir maman. À l'époque, je n'ai pas encore Anna et c'est le projet. Il y a mon travail, il y a mon sport,
oui,
il y a le projet.
Parce que vous travaillez, vous êtes agent EDF aussi.
Exactement.
En parallèle.
Je suis agent EDF en parallèle de ma carrière sportive. Donc c'est aussi toute une remise en question de mon projet professionnel. Et puis la deuxième question, au-delà de l'organisation logistique de ma vie, c'est est-ce que je suis légitime? Est-ce que j'en ai les compétences? Et pour moi, comme je ne suis pas un copier-coller des manuels, j'ai pas les compétences d'eux. Et derrière, voilà, elle va avoir ce stratagème pour arriver à me convaincre.
Alors justement, Emmanuelle Hassmann, qui est-elle? C'est la femme inspirante que vous avez choisi de partager avec nous. Et pour en savoir plus, je vous propose d'écouter Yves Villaginès, qui est journaliste aux Échos et qui nous rejoint. Bonjour Yves.
Bonjour Marie-Amélie, bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous connaissez l'effet Mathilda. Alors rien à voir avec le roman pour enfants de Roald Dahl. Je vous parle de Mathilda Jocelyn Gage, qui pour la première fois à la fin du 19e siècle a évoqué ce phénomène déprimant, de l'invisibilisation des femmes dans les découvertes scientifiques, dans les productions artistiques et même dans les exploits sportifs. Emmanuelle Hassmann, c'est la femme que vous avez choisie comme femme inspirante, c'est une sportive de haut niveau. Et elle a subi un double effet Mathilda. Alors je m'explique. C'est une escrimeuse, une épéiste, qui en 2004, avec l'équipe de France, a décroché la médaille de bronze à Athènes. Par curiosité, j'ai cherché une photo, une vidéo de ce moment sur Internet. Rien. Alors, pas une image, je n'ai rien trouvé. Alors, c'était en 2004, et elle-même le dit, les stades étaient un peu vides à l'époque. Oui, parce que Emmanuelle Hassmann, elle a ce double effet Mathilda. C'est une femme et c'est une sportive de handisport. Alors, qui est-elle? Et mon rôle aujourd'hui, c'est de lui rendre la lumière. Qui est-elle? Emmanuelle Hassmann a grandi en Seine-Saint-Denis. Après son bac, elle entame des études pour devenir clerc de notaire. Mais à 20 ans, elle est victime d'un terrible accident. Elle passe 6 mois à l'hôpital et 1 an en centre de rééducation. Sa vie bascule totalement. Elle décide de changer de cap professionnel et trouve un emploi jeune à la Fédération française de handisport. C'est un virage professionnel étonnant pour elle parce qu'elle le reconnaît, elle dit « Moi, je viens d'une famille de 68ards où on était plutôt théâtre et cinéma, alors pas du tout footing et natation. » Au contact des sportifs de la Fédération, elle s'y met gentiment d'abord. Hein. Elle tâte du ballon avec le basket-fauteuil, sans enthousiasme, elle dit. Elle s'attarde ensuite sur l'escrime et elle fait mouche. Elle participe à des compétitions petit à petit et décroche des médailles. Elle quittera ensuite la fédération pour devenir salariée d'EDF, comme vous, Marie-Amélie, mais jamais comme bénévole et sportive. Elle va beaucoup, beaucoup donner pour le handisport, par ses victoires sportives d'abord, mais aussi parce qu'elle a pris la présidence de la fédération en 2013 et qu'elle a été une cheville ouvrière de la candidature de Paris 2024. Elle le dit elle-même, le sport a changé sa vie, peut-être plus que le handicap même. Aujourd'hui, Emmanuelle est responsable du partenariat entre EDF et Paris 2024 et cet été, elle aura la joie d'être dans les coulisses des Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, dans les stades, les dojos et les piscines. Est-ce que c'est difficile de prendre la suite d'une femme qui vous inspire comme ça? Parce que, vous dites les rôles modèles, vous préférez les femmes inspirantes, mais c'est quand même difficile de prendre la succession de quelqu'un que vous admirez.
Effectivement, c'est quelque chose de très difficile et je pense que pour moi, ça a renforcé mon sentiment de non-légitimité parce qu'Emmanuelle, je l'ai vue évoluer dans les instants. J'ai vu à quel point, effectivement, elle avait donné à tous les acteurs de la candidature et de l'organisation de ces Jeux la capacité d'incarner le P de JOP, c'est-à-dire d'incarner la vision paralympique, l'ambition paralympique. Mais ce qui vient avec Emmanuelle, c'est que elle est toujours à mes côtés. C'est-à-dire que quand il y a un doute, une question, que voilà, il y a des moments aussi dans ma fonction où il y a des jours où voilà, où ça va pas forcément toujours bien, et ben Emmanuelle, elle est toujours là, toujours à nos côtés, toujours à l'écoute et toujours dans la bienveillance. Donc non, c'est quelque chose de pas facile. Après, elle a eu cette capacité aussi à me faire prendre conscience que elle était là à un moment donné du mouvement paralympique et que ses compétences, sa personnalité, sa vision étaient ce qu'avait besoin le mouvement à ce moment-là. Et que maintenant, le mouvement paralympique, il avait besoin d'autre chose. Et notamment, et vous le disiez très justement dans le portrait que vous avez fait d'Emmanuel, il avait besoin de visibilité externe. Et moi, cette visibilité, je l'avais connue, en tout cas, je l'avais parce que j'ai vécu les Jeux de Londres. Et contrairement, effectivement, à ce qu'a vécu Emmanuel lorsqu'elle gagne sa médaille en 2004, moi, j'ai été championne paralympique en 2012, à Londres, là où il y a eu un effet très important sur la médiatisation et pour la médiatisation du parasport. Donc en fait, ça m'a un peu mis comme ça sur le devant de la scène médiatique. Et finalement, c'est vraiment ce qu'avait besoin ce mouvement paralympique dans l'ambition des Jeux de Paris 2024.
Ça doit être incroyable de participer à l'organisation des Jeux Olympiques. Vous avez hâte, j'imagine. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ?
Alors oui, j'ai hâte. Et pour bien clarifier ce qu'est notre mission, moi je ne travaille pas, en tout cas je ne suis pas présidente du comité d'organisation des Jeux Paralympiques. Ça c'est vraiment la mission de Tony Estanguet. En fait Tony, il va organiser aussi bien les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Moi, et c'est ce que j'adore dans ma mission et celle du comité paralympique, elle n'est pas uniquement liée à Paris 2024. Par contre, on se sert de l'opportunité absolument extraordinaire d'avoir les Jeux dans notre pays pour renforcer notre engagement sur nos deux missions. La première mission, c'est ce qu'a fait mon parcours de vie, c'est le sport de haut niveau. C'est la réussite de l'équipe de France et vraiment faire en sorte que lors de ces Jeux de Paris, nous permettions aux athlètes d'être dans les meilleures conditions logistiques pour performer. Donc on va être aux petits soins pour nos athlètes, encore plus que d'habitude parce qu'on a aussi plus de moyens pour le faire. On va faire en sorte qu'au village, ils aient aussi cette compréhension qu'ils vivent dans une équipe qui est multisport, qui vivent au sein de l'équipe de France, qui est olympique, paralympique. On va aussi essayer de vraiment d'optimiser tous les détails de récupération, de régénération. Et un enjeu majeur, c'est aussi, qui est celle de notre mission, c'est de renforcer la médiatisation et le rayonnement des Jeux paralympiques. Ça, c'est essentiel. Et l'autre partie de ma mission, et vous allez comprendre le lien eu égard à la change qu'on a déjà eu ensemble, c'est de favoriser et de développer l'accès au sport de toutes les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire que notre mission, elle n'est pas que simplement sur la compétition, le haut niveau, elle est aussi sur le fait de changer notre système et de faire en sorte que demain, cet épanouissement par le sport dont je vous parle dans mon parcours de vie, dont Yves nous a parlé dans l'épanouissement du parcours de vie pour Emmanuel, ça devienne quelque chose de véritable pour toutes les personnes en situation de handicap et qu'on lève collectivement tous les freins qui sont encore inhérents à cette pratique sportive. Parce que ces freins, ils peuvent être individuels, ils peuvent être liés à la personne, ils peuvent être liés au territoire, ils peuvent être liés au manque de formation de nos clubs sportifs. En tout cas, ces freins, ils sont multiples et ils nécessitent qu'il y ait énormément d'acteurs qui se mettent en action pour les lever.
Oui, parce qu'il y a 13%, si mes chiffres sont exacts, 13% de personnes en situation de handicap en France. Et aujourd'hui, on voit bien que notre société, elle n'est pas du tout inclusive.
Exactement. En fait, on considère effectivement qu'il y a à peu près entre 10 et 12 millions de personnes en situation de handicap. À l'échelle de la population mondiale, ça représente 15%. Donc, c'est exactement les chiffres que vous disiez. Et c'est une population qui est souvent très invisible et pour lequel, finalement, quand on pense une méthode, quand on pense un aménagement public, quand on pense un moyen de fonctionnement, on ne se pose pas la question de la spécificité du handicap. Parce que l'inclusion et l'accessibilité, c'est pas quelque chose qu'on a chevillé au corps dans notre modèle français et ça doit évoluer. Et c'est là aussi où moi je trouve que les Jeux paralympiques sont un outil absolument extraordinaire. C'est un outil de valorisation du sport paralympique. C'est un outil pour opérer le changement de regard des Français sur la situation de handicap et ça permet effectivement pour une fois dans le parcours de vie des personnes sous handicap de lier handicap avec une sémantique positive, celle du dépassement, de l'engagement, de la performance. Mais les Jeux paralympiques, c'est plus que ça. C'est aussi quelque chose qui a la capacité de faire réfléchir nos sociétés. Et moi, je trouve qu'on n'a jamais autant débattu et mis en lumière les difficultés d'accessibilité des transports en commun parce qu'il y a les Jeux, parce qu'ils se tiendront à Paris. Voilà. Ils sont catastrophiques. Et maintenant qu'on a fait le constat, l'idée, c'est de se dire, OK, on fait le constat, les transports ne sont pas mis en accessibilité pour Paris 2024. Ça, c'est une certitude. Mais derrière, comment on peut agir? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont nos leviers? Comment on peut penser intelligemment pour redonner effectivement la possibilité du choix, l'autonomie de la personne en situation de handicap et que tout ça soit programmé dans le temps et donc financièrement acceptable pour notre pays. Et c'est aussi finalement de responsabiliser chaque citoyen dans son propre comportement pour faire en sorte que l'inclusion, elle se vive. Voilà. Elle se décrète pas, elle se vit. Et donc, il y a aussi tout un facteur éducationnel à avoir. Et c'est pour ça que nous, on est très attachés à tous les outils de valorisation et de promotion des parasports au sein des écoles, parce qu'on sait que c'est aussi un moyen finalement pour, dès le plus jeune âge, ancrer des souvenirs à nos jeunes sur des situations de handicap qui sont des situations de handicap positives. Ça permet vraiment aussi à la communauté éducative de parler des différentes typologies de handicap. Et moi, je vous invite vraiment toutes et tous à venir vivre les Jeux paralympiques en famille cet été, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être un moment formidable, un moment d'émotion extraordinaire. Si vous aimez le sport, vous retrouverez tout ce que vous aimez dans le sport parce qu'il y a des véritables performances, parce qu'il y a de l'engagement, il y a du dépassement de soi. Mais les Jeux paralympiques, c'est plus que ça. Vraiment, le sentiment qu'on y reçoit est absolument extraordinaire. Et si vous y venez en famille, encore une fois, la billetterie le permet, ça va être aussi une capacité pour vous d'ancrer dans le regard de vos enfants un regard très positif sur le handicap. Et derrière, en fait, ils ressortiront grandis, et vous aussi, en tant que citoyen, grâce à cet événement sportif.
C'est une invitation qui est reçue, entendue et qui fait vraiment envie. Merci Marie-Amélie pour cette invitation. Je vais vous proposer de répondre, j'ai encore plein d'autres questions, mais le temps file trop. Je vais vous proposer de répondre au tac au tac à quelques questions. À qui ou à quoi dites-vous non désormais et à quoi êtes-vous fière d'avoir dit non ?
Je dis non à beaucoup de sollicitations qui m'arrivent et c'est à contre-cœur, mais à un moment donné, je préfère me concentrer sur les projets, les associations que je parraine déjà pour vraiment pouvoir porter un message impactant et donner du temps réellement aux causes dans lesquelles je suis engagée.
Votre pire moment de solitude professionnelle ?
Je pense que le plus grand moment de solitude, je voulais partager, c'est ce moment où je bats le record du monde et finalement je prends conscience que c'est le moindre titre paralympique ne ramènera pas et ne créera pas ce besoin de fonder une famille.
Que souhaiteriez-vous absolument faire dans votre vie ?
Voyager. Et c'est assez paradoxal parce qu'en fait, j'ai voyagé dans le monde entier par le sport, mais j'ai jamais eu l'occasion d'en profiter, de m'imprégner de la culture, de découvrir les paysages. Et je pense qu'actuellement, j'ai envie de voyager et d'offrir cette ouverture d'esprit du monde à mon mari et à mes enfants.
Et de l'insouciance aussi, parce que vous avez tellement été dans la discipline, la contrainte, l'effort depuis toute petite finalement. C'est de l'insouciance finalement voyager, non ?
Ouais, de la légèreté. C'est de la légèreté.
Si vous aviez ou si vous étiez un pouvoir magique ?
Le pouvoir de consoler, parce que j'aime pas en fait voir les gens tristes et j'ai toujours envie de les rebooster, de les aider à voir le positif d'une situation, parce que c'est aussi ce que m'a démontré mon parcours de vie, c'est que dans les pires épreuves de votre vie, que ce soit professionnel, que ce soit des épreuves dans le secteur privé, il y a toujours des opportunités extraordinaires à saisir.
La musique qui vous donne de l'énergie ?
Des musiques très rythmées, un peu latino. J'aime bien les musiques comme ça et c'est ce que j'écoute pour me dynamiser dans les moments difficiles.
Votre prochaine action pour plus d'égalité ou d'inclusion ?
Œuvrer pour l'accès au sport des personnes en situation de handicap parce que ça a un effet levier pour les personnes en situation de handicap, par le vecteur de confiance en soi, d'autodétermination, et parce que c'est un levier fondamental pour changer le regard de notre société.
Votre mot-clé, celui qui vous guide ?
Le partage, la rencontre.
Merci beaucoup, Marie-Amélie Le Fur. Ce que je retiens de notre échange, c'est vraiment notre capacité à la fois à tout surmonter et puis à voir les choses différemment et à laisser cette incertitude devenir positive et pas être rongée par la peur, mais vraiment se faire porter par la vie et avoir confiance en la vie. Et je pense que c'est un message que vous avez distillé tout au long de ce podcast. Si on veut en savoir plus sur vous, vous avez aussi écrit un livre il y a quelques années, « Fais de ta vie un rêve » aux éditions Plume éléphant. Merci à vous qui nous écoutez. Un immense merci Yves pour cette chronique et sur l'effet Mathilda. Merci également à Ariane Godefroy, Camille Codor, Marie Jaworski. Merci à Zaya Cassel et Les Échos pour l'organisation. Rendez-vous dans un mois pour un nouveau podcast Elles ont osé avec Les Échos. D'ici là, gardons précieusement en nous cette citation de Goethe qui correspond si bien à l'esprit de ce podcast et encore plus aujourd'hui. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.